Lecture d'Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelle. » Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Nous voilà dans ce livre d'Apocalypse, et en particulier dans le chapitre 21, ce chapitre qui nous ouvre le ciel. Je dois reconnaître que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre facile. Et surtout que c'est un livre aussi qui suscite la curiosité de certains nombre de gens sous une forme de curiosité bizarre. Mais pour le croyant, ce livre de l'Apocalypse s'ouvre vers une espérance. Et surtout dans ce chapitre 21. Le chapitre 21 de l'Apocalypse nous dévoile l'accomplissement de tout le plan de Dieu depuis la chute, depuis Genèse 3. À travers ce chapitre 21, nous voyons la rédemption achevée. Mais nous constatons une chose à travers ce chapitre, que le péché n'avait pas seulement touché l'homme, mais aussi sa demeure, la terre. Et si vous allez dans la Genèse au chapitre 3, verset 17, la deuxième partie du verset 17, vous voyez que Dieu maudit la terre. Aussi, nous pouvons dire que la terre aussi a besoin d'être renouvelée, transformée, changée, remplacée. Au moment où ces événements du chapitre 21, je me répète concernant le chapitre 21, mais au moment des événements du chapitre 21, il y a plusieurs choses qui ont déjà précédé l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, les 1000 ans de règne de Christ, le jugement de la terre, le jugement dernier. Tout cela a déjà eu lieu. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, nous pouvons voir les promesses de Jésus concernant la destinée de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Alors, lisons quelques passages dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 10. Et bien sûr, ce beau verset du verset 10 qui nous dit, surtout la deuxième partie, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance, sans mesure. » Les versets 27 à 30 de ce même chapitre. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » La volonté du Seigneur Jésus, qui s'accorde totalement avec la volonté du Père. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, les trois premiers versets, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La volonté du Seigneur Jésus. Et dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de l'évangile de Jean et le verset 24, Ce sont quelques exemples. Voilà ce qu'il demande au Père. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Revenons à notre chapitre 21 de l'Apocalypse. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà révélé ce principe de nouveau ciel et une nouvelle terre, déjà dans Ésaïe au chapitre 65. C'est bizarre que ça remonte si loin. Ésaïe chapitre 65, verset 17, il est dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Dans le chapitre 66, verset 22, il nous est précisé: car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. N'est-ce pas magnifique? 600 ans hein, avant notre ère, ou 500 ans. Donc, l'apparition de ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre accomplit l'espérance du chrétien. Oui, nous espérons à cela. Nous devons même entretenir cela dans notre cœur. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, nous lisons au verset 13, 2 Pierre, chapitre 3, et au verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, cette apparition donc que Jean contemple accomplit l'espérance des chrétiens. Mais cette apparition répond aussi au soupir de la création. Nous avons parlé de la terre qui a été maudite. Et tout ce qui se trouve sur cette terre. Donc, dans Romains 8, par exemple, nous voyons ce soupir de toute la création. Romains 8, au verset 19-22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, l'accomplissement de l'espérance du chrétien, la réalisation ou la réponse aussi au soupir de toute la création entière. Bien sûr, nous savons que c'est l'apôtre Jean parce qu'il le dit. L'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et ici, il dit qu'il contemple, lisons ce qu'il voit. Je vis descendre, verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte et la nouvelle Jérusalem. Jean contemple ce glorieux renouvellement de l'univers. déjà au chapitre précédent, verset 20, verset 11, chapitre 20, verset 11, il dit « Et puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Renouvellement, l'ancienne terre disparaît, la nouvelle est là. Le verset 21 du chapitre 20 encore, nous lisons. C'est le chapitre 21, verset 1er, on relit. Et puis je vis un nouveau ciel. C'est-à-dire qu'il contemple cela, il en est le témoin de cette apparition d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et ensuite, non seulement qu'il en est le témoin, mais il reçoit un ordre de la part de Dieu. Verset 21 du chapitre 21. Non, le verset 5 du chapitre 21. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris. » Car ces paroles sont certaines. Être témoin est une chose, mais être aussi l'homme choisi par Dieu pour transmettre l'information ou ce que le Seigneur lui a révélé. Et cette transmission, soyons heureux, soyons pleins de joie, parce que nous a été transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Alors ce qu'il voit, sa manière de décrire les choses, la description du ciel et de l'éternité et le couronnement de la révélation de Jésus-Christ annoncée depuis le début du livre de l'Apocalypse. Moi, je me suis toujours posé la question. En dehors des prophéties d'Ésaïe et certains textes comme le texte de 2 Pierre que nous avons lu tout à l'heure, qui parle de nouveaux cieux et nouvelle terre, dans les autres textes, on parle de ciel. Et pendant un certain temps, je ne comprenais pas pourquoi on parle de terre. J'avais l'impression qu'on revenait sur la terre. J'ai dit non, ici, c'est une autre description du ciel que le Seigneur a révélée au fur et à mesure de sa parole. Ce couronnement va donc établir le nouveau ou la nouvelle habitation des croyants. D'ailleurs, cette révélation, Jésus a déjà mis son plan, j'allais dire sa révélation, dès le début du livre de l'Apocalypse. Vous savez que le mot Apocalypse veut dire révélation. Et il est précisé dans le verset 1 du chapitre 1er, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc il s'agit bien d'une révélation. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le livre de l'Apocalypse? L'espoir que le Seigneur y met, ou certaines descriptions qui suscitent peut-être la curiosité simplement? Nous voyons la description de la bête, nous voyons la position du faux prophète, ainsi de suite. Mais si nous ne voyons pas l'espérance que le Seigneur met dans ce livre, je dirais nous sommes un peu bancals dans notre aspiration. Alors, pourquoi un nouveau ciel et une nouvelle terre? La Bible nous dit que l'homme ressuscité, chapitre 20, verset 12, il est dit « Et je vis les hommes, les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon ainsi de suite. » L'homme ressuscité, qui est ressuscité, ne sera pas un pur esprit. Et Adrien a lu le chapitre 15 de 1 Corinthiens tout à l'heure, où il reçoit un corps glorieux. Alors pourquoi un nouveau ciel et une nouvelle terre? Eh bien, le Seigneur nous montre sa cohérence dans sa révélation. Dans le monde où les disciples de Jésus vont vivre avec leur corps glorifié, cela exige une autre situation qui est une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Même si dans l'Apocalypse nous voyons beaucoup d'images indispensables pour que nous puissions comprendre certaines choses, pour comprendre la réalité céleste. Donc, le corps glorifié amène une exigence d'une terre nouvelle, d'un nouveau ciel. Une des particularités de cette nouvelle terre est que la mer n'y est plus. Je dois vous avouer aussi que là, j'ai entendu de plusieurs interprétations, mais je ne vais pas dans ce sens. Je dis je ne sais pas. Pourquoi supprimer la mer? Ce qui est certain, c'est que il s'agit bien d'une nouvelle terre. Il s'agit bien, nous y voyons bien que l'ancien monde a vraiment disparu. Nouveau ciel, nouvelle terre. Dieu dit, c'est fait. Je fais toute chose nouvelle. Oui. Une dimension qu'avant, dans tout l'évangile, on parle de ciel, l'éternité. Et ici, on voit une concrétisation de ce ciel, de cette éternité. L'homme régénéré, transformé avec un corps glorieux, va vivre dans une terre nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Et puis, la révélation qui suit, c'est la nouvelle Jérusalem. Toujours dans le verset premier, verset 2 plutôt, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Dans l'Ancien Testament, Jérusalem a toujours été considérée comme le centre du royaume de Dieu, le lieu où l'Éternel avait établi sa demeure parmi les hommes. Et cela, bien sûr, par la présence de l'Arche de l'Alliance dans le temple. Mais aussi comme dans le désert. Mais plus tard, du temps de Jésus, ce temple est devenu une caverne de voleurs. Et Jésus lui-même a annoncé sa destruction. Regardez ces édifices, disait-il, il ne restera pas pierre sur pierre. Il y a plusieurs textes que nous pouvons lire là-dessus, mais je ne les lirai pas maintenant. Et pour ceux qui le veulent, je distribuerai quelques résumés avec ces versets tout à l'heure. Mais le temple est devenu une caverne de voleurs. Jésus lui-même a été rejeté et le temple a été détruit. Mais Dieu a une promesse. Dieu est fidèle. Il a promis. Et sa promesse a été préfigurée à travers l'ancienne Jérusalem. Et nous voyons cette promesse s'accomplir dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse. Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire quelques passages dans Ésaïe. D'ailleurs, tout le chapitre 60 d'Ésaïe nous parle de cette promesse concernant Jérusalem. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, ainsi de suite. Et idem au chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et vous pouvez lire tout ce chapitre. Nous pouvons lire aussi une partie du chapitre 65, à partir du verset 19. Je peux même lire à partir du verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne passeront plus, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et son peuple ma joie, et on n'y entendra plus les bruits des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et des habitations, ils planteront des vignes, en mangeront le fruit. » Voici toute une préfiguration concernant l'avenir de Jérusalem. Mais la valeur de Jérusalem a été méprisée. Son temple est devenu une caverne de voleurs. Sa destinée au niveau de la terre a été déjà annoncée par Jésus. C'est sa destruction. Mais la promesse reste. Dieu l'accomplit et la révèle dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse d'une manière infiniment supérieure à ce qu'était la Jérusalem terrestre. Même si la Jérusalem terrestre avait à une époque sa glorieuse situation. Jean dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Cette Jérusalem est l'Église. car elle a été préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 2. Et plus loin, ou plutôt, dans le chapitre 19, versets 7 à 9, il dit « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est d'essence céleste, par opposition à l'ancienne qui est terrestre. Cette nouvelle Jérusalem va devenir donc le séjour des saints glorifiés. Qui sont les saints glorifiés? Sinon ceux qui sont ressuscités, ceux qui ont suivi Jésus et qui sont ressuscités et reçoivent ce corps glorifié. Dans Éphésiens 5, au verset 27, il est parlé de ces saints glorifiés. Éphésiens chapitre 5, verset 27. C'est dans le cadre donc de l'enseignement concernant le mari. Il est dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau et de la parole. Et la suite nous intéresse, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. La particularité de cette Nouvelle Jérusalem, c'est que là, il n'y aura ni soleil pour l'éclairer, ni la lune. C'est la présence de Dieu et de l'agneau qui va briller dans cette ville. Les versets 9 et 10 du chapitre 21 nous dit « Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me montra en esprit, transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Nouvelle terre, nous avons relié cette nouvelle terre avec le corps glorifié des ressuscités. Une cohérence, harmonie entre les deux. Mais nous reconnaissons aussi que il y a des images qui sont là pour nous aider à mieux comprendre, à comprendre cette dimension céleste que Dieu veut nous révéler à travers la vision, ce qu'a vu l'apôtre Jean. Jérusalem, la ville sainte, la ville elle-même, plus tard nous lirons qu'il n'y a pas de temple dans la ville, parce que Dieu et l'agneau avaient leur place dans la ville. Tout à l'heure, Adrien nous a lu ce passage où on apporte des dimensions concernant la ville sainte. Il nous est parlé aussi dans cette description toutes les choses précieuses qui sont utilisées dans la construction de cette ville. Ceci montre cette gloire. Et chose formidable, c'est que la ville sainte est éclairé par Dieu lui-même. Alors, on peut dire, mais c'est bien beau tout ça. Mais le Seigneur a voulu quand même attester la véracité de sa parole. Verset 5, nous lisons. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Dieu déclare d'une manière officielle, mais aussi avec sa douceur, d'une manière apaisante, d'une voix forte venant du trône, et nous lisons déjà la partie verset 3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il a déjà dit cela dans l'ancien temps, quand il a établi le tabernacle par l'intermédiaire de Moïse. Mais à cette époque, les bénédictions dépendaient de la loi, étaient conditionnées par l'obéissance à la loi. Et ici, il y a l'amour de Dieu, l'action de Dieu. Nous avons vu aussi l'autre. Nous avons lu tout à l'heure l'autre déclaration de celui qui est sur le trône. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Par ces paroles, Dieu lui-même manifeste son autorité, sa sainteté, la certitude des faits, son attachement à celui qui vaincra, c'est-à-dire le croyant sauvé par Jésus. Deux attestations, deux affirmations. D'une part, la déclaration officielle que lui, il va habiter parmi les hommes, et là, il va enlever toute souffrance, il essuiera toute larme. Et la deuxième déclaration en disant, ce que j'ai fait, je suis l'alpha, je suis le commencement, je suis celui qui tient même la fin des choses, ces paroles-là sont véritables. Il affirme son autorité, il affirme sa certitude, mais aussi son attachement à celui qui est sauvé. Dans cette cité céleste, la communion avec Dieu sera réelle et vivante, sans commune mesure avec ce que l'être humain de toute génération a pu connaître. Pour ces êtres parvenu à la perfection. Vous vous rappelez de ce qu'a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, à la stature parfaite de Christ. Et là, c'est l'accomplissement. Donc, pour ces êtres parvenus à la stature parfaite de Christ, l'amour entre Dieu et les hommes est infini, incommensurable. C'est dans Romains, je crois, ou dans Éphésiens, il est dit que nous ne pouvons pas connaître la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est révélé là. Dans Romains, il est dit aussi que nul ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Dieu affirme et atteste ce qu'il a dit et ce qu'il a transmis à l'apôtre Jean. Alors c'est ça là, notre destination. En tant que disciples du Seigneur Jésus, c'est ça que le Seigneur veut nous ouvrir les portes. Une telle destination est seulement digne de l'homme créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ. La conception de ce bonheur que nous y voyons est exempte de tout alliage sensuel, comme toute autre fantaisie de notre imagination. Et cela ne peut être que le fruit d'une révélation divine. Et je termine par un passage que j'aime beaucoup, dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. J'entends encore certains jeunes chrétiens et moins jeunes encore qui disent, mais mon problème, c'est que je ne suis pas toujours fidèle au Seigneur, alors j'hésite avant de me faire baptiser. Parce que je me connais, quoi. Et si le Seigneur dit que c'est celui qui nous ressuscite au dernier jour, et l'apôtre Paul déclare que nous recevrons un corps glorifié. Et l'Apocalypse 21 nous dit que nous serons reçus dans un nouveau ciel et dans une nouvelle terre. Et le centre de ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, c'est la nouvelle Jérusalem qui est l'Église. Et Dieu assure sa présence au milieu de tout cela. Il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette promesse. Sois béni, Seigneur, parce que tu veux que nous entrions encore dans ton plan, non pas pour être plus sauvés, mais pour jouir de la joie que tu nous procures dans cette espérance que tu mets devant nous. Sois béni. Amen.